Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous cet épisode autour de la chef Adeline Grattard.
La cuisine m'aide à réaliser mes envies parce qu'en fait, quand je me lève le matin, tout ça, j'ai envie de manger. Si je suis vraiment guidée par mes envies de manger et je les fais au restaurant. Donc, ça réalise mes envies, mon fantasme. C'est un accomplissement, je pense, la cuisine pour moi.
Adeline Grattard ne rêvait pas de restauration enfant. C'est après des études d'allemand qu'elle a finalement bifurqué vers la cuisine. Cette ancienne de la Strance s'est formée une identité culinaire à part. Influencée par les origines hongkongaises de son mari Chihua Chan, ses expériences et ses voyages. En 2009, l'ouverture de leur Yamcha dans le quartier des Halles à Paris, où ils célèbrent les accords mets-été, est un succès fulgurant. Ils ont imaginé depuis d'autres formats comme Boutique Yamcha, un comptoir à thé et à bao, et Laicha, un bar à wonton et bistrot chinois. Leurs adresses singulières sont un délice et je prends toujours un immense plaisir à m'y attabler. Dans cet épisode, Adeline parle de puissance, de jugement, d'ébullition et de l'expérience Chef Stable. Bonne écoute! Bonjour Adeline!
Bonjour Julie!
On est dans le tout premier Yamcha qui a ouvert il y a tout juste 10 ans, un tout petit peu plus de 10 ans. On s'est rencontrés à cette époque et c'est vrai qu'en 10 ans, ça a bien grossi parce que maintenant t'as 3 adresses, 3 enfants aussi. t'as pas chômé en 10 ans. Est-ce que t'arrives encore à être partout avec tout ça?
Oui, j'arrive à être partout. C'est justement là le défi. Je suis peut-être un peu moins à la boutique. Parce que c'est un concept, le bao, on a une dame chinoise qui les fait maintenant, et c'est régulier, elle travaille très très bien, donc je mets un peu moins le nez pour surveiller, parce que j'ai une grande confiance en elle. Et puis Chihua est là aussi, donc c'est un peu, on dirait, l'affaire de Chihua maintenant, la boutique, et parce que c'est le format qui lui convient bien, il est bien dedans. Il est le seul à pouvoir parler d'été dans la maison et les conseiller, et les faire bien. Donc, je suis beaucoup au restaurant parce que le nerf de la guerre, c'est de continuer à cuisiner avec tout ça. Donc, je suis beaucoup en cuisine. Et au café, je supervise, je passe, comme j'habite au-dessus, je passe tous les matins, je passe tous les après-midi, tous les soirs. Donc, collaboration avec Élie, qui est le chef. Où je lui laisse un peu les décisions des recettes et après je check ou j'ajoute ou je mets un petit twist histoire de tout contrôler et d'affiner le travail.
Et c'était nécessaire que les adresses soient à côté pour que tu continues justement à être partout.
Tout s'est présenté assez naturellement. Bon, qu'on ait atterri dans le premier, c'est tout à fait un hasard. On a trouvé cette petite affaire à ouvrir en 2009. Ça nous plaisait, enfin le format nous correspondait, le budget, l'enveloppe nous correspondait aussi, il fallait pas voir trop grand. Bon, on s'est installé ici, on a construit notre vie dans ce quartier, donc à l'époque on avait une fille, on l'a scolarisée dans le premier, donc on a commencé à s'ancrer, à connaître aussi du monde, et puis c'est proposé à nous 2 fonds de commerce à réunir, rue Saint-Honoré, où on est actuellement, et on a commencé à se dire, moi, au début, je voulais pas entendre parler de déménagement, parce que j'adore la rue Sauval. Et puis, on a commencé à regarder, et le lieu nous plaisait, il fallait le créer, hein, c'était un magasin de meubles et une supérette, les 2 fonds à réunir. Il y avait des gros, gros travaux, à réaliser. Et puis ça nous a tenté à condition qu'on garde le petit Yamcha, qu'on garde l'adresse rue Sauval. Les banques nous ont suivis, donc on n'a pas été obligé de vendre la rue Sauval pour pouvoir investir dans un autre lieu. Et à ce moment-là, est né le concept des Bao. Je me suis dit, bon, ok, on le garde, mais il faut pas que je sois dedans. Donc, on fait un concept de thé et de Bao. Et puis, on déménage le restaurant gastronomique rue Saint-Honoré. À cette époque-là, on a eu notre deuxième enfant, un petit peu avant même, mais on a eu notre deuxième enfant, toujours dans le quartier, on était bien, voilà, deux affaires. Et puis, il y a 2 ans, eh ben, on nous a proposé la rue du jour. C'est marrant parce que c'est souvent, c'est les gens qui viennent à nous, en fait, on cherche pas. Et c'est une dame qui avait un magasin de prêt-à-porter, elle me dit, ouais, je vois que là, j'étais enceinte de Léon, du troisième, et je vois que la famille va s'agrandir, vous savez, il y a... j'ai mon commerce et il y a la maison au-dessus, ça serait bien pour vous. En plus, le bail est bien pour la restauration. La propriétaire veut que ça redevienne un restaurant parce que c'était un restaurant du temps des Halles. Donc, on a visité et enfin, c'est Chihuahua qui a visité parce que moi, je lui disais, je te préviens, pas de troisième affaire. Non. Mais va voir quand même. Il a visité, il est revenu blafard en disant, on a toujours rêvé de ça. Ah merde. Et donc, le lendemain, j'y vais. Effectivement, ça m'a plu aussi. On s'est dit, allez, on y va.
Et le concept, si on peut dire, de traiteur est né de l'endroit où t'as,
Ça, c'était un peu une envie parce qu'on me demandait souvent de faire des choses à emporter ou parce que les gens n'arrivaient pas à venir au restaurant, de leur faire le menu à emporter. Puis l'idée m'a jamais trop séduit sur le menu gastronomique à faire packaging. Enfin, je me suis dit, faisons donc un traiteur. Enfin, parce que je trouve que c'est difficile de trouver aussi des choses saines en traiteur et bonnes et fraîches.
Avec des bons produits.
Donc c'était un peu un défi qui est pas forcément facile à réaliser. Là, après un an, c'est assez dur en fait d'avoir toujours très très frais, de d'achalander pour que ça soit rempli sans trop perdre. Enfin, c'est pas évident. Et du coup, bon là, le Laïcha est devenu. Il y a le traiteur, il y a aussi le restaurant dedans, hein, la carte des tapas. Et plutôt un bistrot. Et on ouvre le soir maintenant. Ça, c'est plutôt nouveau. On ouvre le soir parce qu'on s'est rendu compte qu'on brassait pas assez d'activités, tout simplement, avec un traiteur du midi et d'une petite carte à tapas. Donc, c'est devenu un bistrot le soir depuis peu, hein, depuis 3 semaines.
Et le brunch aussi.
Et le brunch le dimanche. Donc c'est un endroit qui se développe petit à petit parce que déjà on n'y est pas à 100%. Donc c'est pas facile de prendre les décisions et d'enclencher et de mettre l'énergie. Donc ça se développe petit à petit. Voilà.
Et les Bao, c'est né aussi du fait que tu as récupéré l'adresse qu'il fallait en faire quelque chose ou t'avais envie de t'intéresser à la street food aussi?
Oui, ça, j'ai toujours aimé la street food en voyage. Après, c'était pas une volonté de recréer quelque chose de street food, mais je pense que les Bao, c'est vraiment une histoire de cœur et quelque chose que j'ai mis au point il y a longtemps au Yamcha parce que je les servais
en fromage.
Voilà. J'ai commencé par le pain vapeur et ensuite je pense que j'ai commencé à servir le Bao Stilton il y a 7 ans à peu près.
Avant que ce soit la mode à Paris.
Exactement. Et puis je trouvais l'exercice intéressant parce que on pouvait rester dans le même concept de franco-chinois en faisant une technique chinoise donc de farcir, fermer, cuire à la vapeur et y mettre bien ce que je voulais dedans. Et donc c'est un exercice totalement Yamcha de franco-chinois.
Et la cuisine, t'as toujours aimé ça depuis petite?
Toujours. J'ai toujours été attirée et j'ai commencé à cuisiner très jeune, en fait.
Tu faisais des recettes pour
ta famille? J'ai souvenir de 4 quarts ou d'un kit que j'avais eu à Noël. J'avais 4 ans. Et quand je vois mes enfants à 4 ans, ils sont loin de pouvoir faire un gâteau. mais j'adorais ça. J'adorais chemiser le moule avec la farine. J'ai des souvenirs très très précis. Et puis vers 7-8 ans, j'ai un jour allumé le gaz parce que ma mère dormait et j'avais pas envie de la réveiller, elle travaillait la nuit. Elle travaillait la nuit, je me suis dit je vais la laisser dormir, je vais faire du riz. J'avais super envie de riz au thym. Et j'étais jeune, j'avais 7 ans ou 8 ans, et je me souviens de réussir, c'était une gazinière sautère, ça marchait pas, et il y avait un petit, pas un chalumeau, mais je sais plus comment on appelle ça, un allume-gaz, et d'avoir pris le truc, et ça marchait, d'avoir réussi à tourner le bouton en même temps, et j'ai vu cette flamme bleue, je revois très bien le moment. Voilà. Et j'avais baissé en me disant, bon, je vais aller chercher la casserole et du thym dans le jardin, je vais faire un riz au thym. Et je l'avais pas éteint parce que je m'étais dit, je réussirais pas à le rallumer. Et ça avait marché. J'avais fait le riz.
Bon. C'est ça qui t'a donné la flamme de la cuisine?
Je sais pas si c'est, non, la flamme, mais la vraie flamme du métier, je pense que c'est Flora Mikula qui me l'a donné, parce que c'était mon apprentissage. Et les premiers mois ont été très durs et je sais pas, c'était soit ça passait, soit ça cassait, quand on fait une reconversion, hein. J'ai fait des études d'allemand avant, j'ai commencé la cuisine à 22 ans. Donc c'était soit ça passait, soit ça cassait. C'était l'hécatombe dans ma section à Ferrandi. Tout le monde abandonnait. C'était oh. Et puis je sais pas, Flora, ça se passait super bien. C'était très dur. C'était beaucoup d'heures. Une cuisine très petite. C'était le bordel. Mais
c'était les saveurs de Flora.
Oui. Avenue de Ségur. Avenue de Ségur. Son resto provençal. Et puis elle était super. Et ça m'a, je sais pas. Je pense que c'est vraiment elle qui m'a mis le pied à l'étrier.
C'était le fait que ce soit une femme aussi, ça a joué ou pas du tout?
C'était le fait que ça soit une ancienne de Passard. Parce qu'à la même époque, quand j'ai commencé à me documenter, à acheter des revues culinaires, j'avais lu un article sur Alain Passard. Et ça me fascinait, sa soupe de moule aux capucines. Et puis je m'étais dit, je suis débutante, je vais pas aller dans un 3 étoiles, c'est pas possible. Donc j'ai regardé un petit peu, et puis j'étais tombée sur un article de femme chef et Flora Mikula, ancienne sous-chef de Passard, et je m'étais dit oh c'est qui, et je m'étais intéressée, donc je suis venue à Paris, j'ai déjeuné chez elle et je lui ai demandé si je pouvais faire mon apprentissage chez elle. Et l'école ne voulait pas, ils voulaient m'envoyer au petit Boffinger. À ce moment-là, ils travaillaient avec des trucs très convenus. J'avais fait l'entretien, on m'avait clairement dit que j'ouvrirais des sacs sous vide. Je le sentais pas du tout. Donc j'ai trouvé mon stage chez Flora et il a fallu se battre un petit peu pour qu'ils acceptent, pour qu'elle accepte et que eux acceptent. Mais ça s'est fait. Et parfois il y a pas de hasard dans la vie. Et je pense que si j'avais fait mon stage au petit Boffinger, j'aurais peut-être arrêté
abandonné
la cuisine.
Comme mais les oui. autres.
Bah oui, 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 oui. Ouais. Mmh.
Et pourquoi tu t'avais pas envisagé d'en faire ton métier adolescente ou?
Je pense que je venais d'une famille où on partait pas en apprentissage, fallait faire des études, fallait avoir son bac, fallait partir en fac ou autre chose, mais ça venait pas à l'esprit de faire un métier manuel et je me disais je vais être prof d'allemand et puis à la quarantaine j'ouvrirai mon restaurant. Je sais pas.
Ah oui,
je sais
pas pourquoi. Ce rêve, oui. Ce rêve dans la tête.
Oui.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'acte à 22 ans?
Je pense que je n'aurais jamais eu mon CAPES. À l'époque, il y avait très, puis encore maintenant, il y avait très, très peu d'attributions de postes par an. Très, très peu. Les taux de réussite étaient très mauvais. J'étais pas brillantissime. Et je me suis dit, je vais ramer pendant 2-3 ans pour avoir ce CAPES, pour me retrouver affectée en banlieue parisienne ou dans le Périgord, un endroit où je veux pas aller. Et j'ai une espèce d'élan qu'il fallait que je prenne ma vie en main et que j'ai pas eu envie d'être tributaire de l'éducation nationale. Et je spontanément, ça s'est fait très spontanément avec pas mal d'énergie.
Et tes parents, ils ont dit quoi?
Mes parents, au début, étaient un petit peu... un petit peu inquiet, je pense, parce que même sans connaître le milieu, on sait bien que c'est un métier difficile, la restauration, donc ils étaient plus à me mettre en garde, t'es sûr. Mes grands-parents aussi qui avaient financé les études en Allemagne, les rebelotes, enfin c'est clairement eux qui ont financé l'école Ferrandi, le loyer à Paris, donc j'ai été soutenue.
Après les saveurs de Flora, t'es allée directement à l'Astrance?
Non, après les saveurs de Flora, donc École Sup, à l'époque elle s'appelait École Sup, où là c'est 2 ans, premier stage chez Henri Faugeron, rue de Longchamp, tu connais?
Ça me dit quelque chose.
Il avait encore, 2 étoiles, ça, c'est Hiramatsu maintenant.
Ah oui.
Et, okay. Et c'est très marrant parce que Madame Faugeron est venue récemment manger, C'est marrant, elle se souvenait bien de ce stage et ça a été un stage fulgurant aussi. J'ai eu beaucoup de chance parce que le chef de cuisine se faisait opérer des varices, hein, c'est le mal des cuisiniers, un peu d'âge, et donc était absent pendant 2 mois et je me suis retrouvée au poisson parce qu'il manquait du monde et j'ai pu toucher plein de choses. C'était vraiment super. Donc super stage chez eux, très formateur, où j'ai vraiment appris le côté bien recevoir les gens, la générosité, bien se comporter entre collègues, manger. Il y avait la table du perso, on la dressait dans la cuisine, il fallait manger, c'était pot-au-feu, c'était cuisiner. Donc il y avait une vraie image de la restauration traditionnelle. Ensuite, la deuxième année, je voulais changer complètement. Je voulais partir dans un hôtel, dans un palace. J'ai fait ce stage avec Yannick Aleno du temps où il était au Scribe. Mm-hmm. Voilà, ça m'a beaucoup moins plu. Non pas la cuisine du chef, parce que j'adorais, enfin, ce qu'il fait, c'est super. Mais l'ambiance palace, où ça se tirait dans les pattes, où c'était vraiment très, très vulgaire, très horrible, horrible. Ça m'a pas plu. Donc, je me suis dit, bien, t'as quoi comme exemple? Ce que j'aimais, en fait, c'était l'idée d'un chef patron. Et au sortir de l'école, je me suis dit, je vais regarder un petit restaurant où le chef est patron. Et l'Astrance était très en vogue. Ils venaient, je crois, d'avoir leur étoile, ou je sais même plus, mais on parlait beaucoup de Pascal Barbeau, de Christophe Roy. Il y avait des photos qui sortaient, des plats et tout. Et c'était aussi un ancien de Passard. Et ça m'a attirée. Je suis passée en vélo. J'ai regardé la carte et j'ai vu foie gras, groseille, champignons. Là, gingembre. Je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bon. Et j'ai passé la porte et j'ai demandé s'il n'y avait pas du boulot. Je me suis fait envoyer balader. Je me souviens, c'était un de ces cuisiniers américains qui regardait un match de foot ou Roland Garros, ou je sais plus, l'après-midi. Et il me dit de rappeler le soir. J'ai rappelé le soir, j'ai eu le chef au téléphone, il cherchait personne. Il m'a dit de déposer quand même un CV. J'y suis allée le lendemain direct où j'ai écrit une lettre de motivation, un CV. Et puis, très bien, si j'ai quelque chose qui se libère, je t'appellerai. Et puis, il m'a appelé. Mais 3 mois après, j'étais déjà en poste au Montparnasse 25. Un truc qui me plaisait pas du tout. Et là, il me dit, réfléchis, si t'es en poste. Et j'ai pas à réfléchir. S'il faut, je suis là demain. Et j'ai quitté très vite le Montparnasse 25 et j'ai commencé à l'Astrance très vite.
Et t'es resté 3 ans?
Pratiquement 3 ans, à peine. Mais
t'as commencé commis là-bas?
Il fonctionne pas comme ça. Ouais. En fait, il a des responsables de poste. Il a 3 postes.
Oui. C'est une petite brigade, petite cuisine.
Garde-manger, pâtisserie, où j'ai fait ça 6 mois. Après, j'ai fait 2 ans de poisson et après 6 mois à la viande. Et c'était la cata. Au début, c'était la cata, c'était horrible, ça se passait très très mal. J'ai failli partir parce que j'avais l'impression de décevoir le chef en permanence. Ça allait pas, je pleurais tous les jours. Je me sentais vraiment super nulle. Et puis il y a eu un déclic, ça s'est fait. Voilà.
T'as gardé, ça a marqué ton parcours, l'Astrance quand même.
Oui, ça a marqué mon parcours dans le sens où, quand on rencontre des difficultés, ça vaut le coup de s'accrocher un peu. Je pense que on est amené à tout le temps dans la vie à sauter des obstacles. Et parfois, on se retrouve un peu le nez dans l'obstacle. Et il faut s'acharner, c'est de comprendre les gens, essayer de savoir ce qu'ils veulent ou regarder d'un autre angle. Donc oui, ça m'a appris beaucoup de choses.
C'est l'époque où il a eu la 3e étoile?
Non, j'étais plus à l'Astrance quand il a eu la 3e. C'est l'année d'après où il a eu la 3e.
Et les saveurs asiatiques, ça te vient de ton mari?
Je pense qu'il a renforcé, mais c'était avant. On a pas mal voyagé avec mes parents. Découverte de l'exotisme très très tôt, à 4-5 ans aussi, on voyageait, on allait dans les Caraïbes, beaucoup l'océan Indien, donc des cuisines métissées, chinoises, indiennes, qu'on adorait à la maison, donc forcément on ramenait des épices, ça cuisinait un peu exotique, et j'adorais ça. Ensuite, il y a quand même, ma tante était mariée à un Hongkongais aussi, on l'a pas fait exprès de répéter l'histoire, mais donc on connaissait la nourriture asiatique. ça a pas mal bercé l'excitation gustative, on va dire.
Après, le fait de rencontrer Chiwa, ça appuyer tout ça, enfin.
C'est ça... oui, exactement. Et parce qu'on a voyagé ensemble, parce que lui cuisinait à la maison. Enfin, j'adorais.
Et pourquoi t'as voulu aller travailler en Chine?
Parce que je voulais couper clairement de la cuisine de Pascal Barbeau. J'avais trop peur de faire la même chose que lui au sortir de la France. Et je me suis dit, faut voyager, faut aller voir du pays. Et puis. Hong Kong, ça s'est un peu ouvert facilement parce que Chiwa était de là-bas. Lui, à l'époque, était graphiste. Il pouvait retrouver du boulot facilement. Il n'y avait pas besoin d'un visa. Enfin, il y avait besoin d'un visa de travail, mais pas si compliqué que ça à avoir par rapport à la Chine ou par rapport à d'autres pays. Et puis, une opportunité. J'ai pu travailler chez Alvin Leung, Bow Innovation. Ça s'est fait, voilà.
Donc vraiment, t'as vu la cuisine gastronomique chinoise, enfin la cuisine gastronomique, c'est assez expérimental, non?
C'était à l'époque, il n'était pas expérimental, il n'était pas dans le moléculaire. Il faisait une cuisine mélangée de Hong Kong et une interprétation de la cuisine hongkongaise à sa façon. Lui, il est un peu foufou et il voulait cette image-là. Il avait besoin de montrer une certaine marque d'excentricité. Donc, petit à petit, il a su se rapprocher de la cuisine moléculaire, chose qu'il faisait pas quand j'étais chez lui. Et maintenant, effectivement, c'est pas quand on va manger chez lui, c'est pas manger, c'est plus une expérience.
Et t'as vu aussi, t'es allé travailler dans des gargotes ou dans des petits restaurants?
Oui,
des...
ça parallèlement à mon travail, j'allais explorer et via Chiwa. Sans Chiwa, j'aurais jamais pu introduire ces cuisines populaires de Hong Kong où ça travaille la nuit ou des dim sum, enfin, la confection de dim sum. J'ai vu pas mal de choses.
Ça devait être assez fou parce que c'est hyper éloigné quand même de ce qu'on...
C'était fascinant.
Ce que tu fais à l'école ou ce que tu apprends dans les cuisines.
C'était fascinant, ouais. Fascinant. Vraiment. Et puis, je suis encore fascinée quand j'y retourne. Là, j'y suis allée deux fois cette année, alors que ça faisait un moment que je n'arrivais plus à y aller. Et de remettre les pieds en cuisine chinoise, il y a une productivité qui est juste hallucinante. Ils sont d'une efficacité de... La cuisine chinoise, c'est des restaurants de 200 couverts, c'est des bites... C'est de la folie, mais leur efficacité,
ouvert tout le
c'est
temps,
de la
en
folie.
Plus. Enfin, t'as pas d'horaire de repas, enfin moins.
Oh, mais à Hong Kong, si, non, maintenant, ouais. si, mais c'est plus le débit, en fait. Ouais. Ils mangent très rapidement et puis il y a 4-5 plats, c'est pas une assiette, c'est 4-5 plats qui sortent sur la table en même temps. Et c'est hallucinant. La réalisation est hallucinante.
Je me souviens de ton wok, ça m'avait assez fasciné aussi, la grosse flamme. Tu l'as encore dans l'autre cuisine.
J'ai même un plus puissant et j'espère bien sur une prochaine affaire avoir encore plus puissant comme ceux de Hong Kong. Mais c'est des débits de gaz, faut des autorisations spéciales, faut un an pour avoir des trucs comme ça. Enfin, faut péter toute une rue pour faire. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Quand on s'est installé rue Saint-Honoré, ça nous a mis, on n'avait pas du tout mesuré, mais il fallait faire venir le gaz et faire venir le gaz dans un établissement, faut ouvrir tout le trottoir, toute une rue et consulter plus de 30 concessionnaires qui a du réseau. Donc pour avoir les autorisations, je te dis pas.
Tu voulais vraiment ton wok.
Ah ben c'était capital. C'est la cuisine de Yamcha n'est pas possible sans le wok, vraiment. C'est ou alors ça changerait vraiment beaucoup de choses.
Et c'est là-bas que t'as appris ça, à manier le wok et la cuisson.
J'ai observé, j'ai appris. Après, j'ai pratiqué par moi-même. Et puis, j'ai aussi mon approche du wok où je cuisine quand même beaucoup moins chaud qu'un vrai chinois pour des questions de santé.
Tu t'es approprié ces saveurs, cette cuisine pour créer ta propre identité culinaire?
Approprié, je sais pas, mais en tout cas, c'est des goûts qui m'intéressent, qui m'attirent, j'ai envie de dire, je me suis forgé un peu mon identité à travers ça. Oui.
Ouais, tu parlais de ce métissage entre les techniques chinoises, des produits français ou locaux. C'est vraiment un mélange des deux.
C'est un mélange des deux qui est assez, je dirais, intégré dans ma vie. C'est le reflet de ma vie parce que les enfants ont les yeux bridés, à moitié bridés, et les cheveux ni ronds ni plats. Enfin, c'est l'histoire d'une vie, d'une rencontre, d'une famille, en fait, d'une famille. Et ça se retranscrit dans ma cuisine, bien évidemment.
Et quand vous êtes rentrée en France, t'es restée combien de temps en Chine? Enfin, vous êtes restée combien de temps?
On est resté seulement 2 ans.
2 ans.
Donc c'était très court. Moi, je voulais rentrer parce qu'on a eu Nina et j'avais pas envie de l'élever à Hong Kong, et puis j'avais pas envie d'ouvrir un restaurant à Hong Kong parce que c'est pas possible sans avoir d'investisseurs, et je voulais vraiment être libre. Je préférais avoir un petit truc à Paris. Voilà. Chihua aussi avait envie de rentrer.
Et c'était le moment, enfin, tu sentais que c'était le moment de te lancer?
Oui. Ah bah oui, avec un enfant dans les pattes, retourner travailler en coupure dans un gastro, c'était pas possible. C'était possible si je le faisais pour moi et en pouvant décider de quand je voulais être en vacances, quand je voulais fermer, quand je voulais... Et ça, je l'avais vite compris, je l'ai très vite compris avant même d'avoir envie de procéder au truc. Ça y est, je suis prête pour ouvrir mon restaurant. En fait, c'était j'ouvrirai mon restaurant, il faut que je me forme pour... Voilà.
Ouais, tu voulais, en la tout finalité, cas, tu voulais avoir ton restaurant depuis longtemps, ce que tu disais.
Bien sûr, bien sûr.
Tu te voyais après avoir été prof d'allemand.
Et je pense
à
que là,
ans.
si mes affaires capotaient, ça serait très très dur de retourner en arrière, d'aller travailler chez quelqu'un. Je sais pas si j'y arriverais.
T'as besoin de raconter ton histoire et de c'est ça, ou c'est le fait d'être maîtresse d'un lieu
C'est de décider, j'ai besoin de décider, en fait, parce que j'ai pris pas mal de responsabilités. On a quand même 20 salariés, on a des gros emprunts sur le dos. Enfin, voilà, il y a le côté chef de cuisine, mais aussi il y a le côté chef d'entreprise. Et ça fait beaucoup à porter. Et je pense que si au bout d'un moment tu portes plus, ça serait pas un soulagement, ça serait un vide total. Donc bon, ça serait très dur de revenir en arrière. Continuer d'avancer et faire plus, je sais pas, parce que ça me paraît impossible, juste maintenir
là,
ce qu'on a. Ouais, mais pas retourner en arrière en tout cas.
Ouais, juste avant d'enregistrer, tu me confiais que c'était pas possible pour toi d'arrêter, même un jour. Je te dis, c'est difficile d'être tout le temps sur place, tout le temps dans les affaires, mais c'est vital finalement.
C'est vital toi, parce que mais oui, et puis pour la santé des entreprises, c'est vital avoir un œil partout. C'est au quotidiennement, c'est pas possible sur les 3 affaires. Donc il y a des jours où c'est plus l'une que l'autre. Et voilà.
Mais ça te plaît d'être tout le temps dans cette ébullition?
Oui, je pense. Oui, oui, j'aime ce que je fais. Et oui, oui. Non, j'ai vraiment pas.
Enfin, de pas couper. Je te dis, est-ce que tu coupes le dimanche? Non, tu coupes assez peu.
Ça fait depuis qu'on a le café, je coupe très peu. Parce que depuis qu'on est ouvert le dimanche, je coupe très peu parce que je travaille dedans. C'est la journée où je peux y être. Et puis le staff est content que j'y sois, les clients sont étonnés qu'on y soit aussi. Bien sûr. Et puis on voit ce qui se passe, on voit ce qui a changé, on voit ce qui est bien, et c'est important d'être dedans. Et puis le lieu est très très plaisant. Et voilà.
Quand t'as ouvert Yamcha, ça a été tout de suite la folie. Tu te souviens?
Oui, c'était la folie. C'était la folie. Nous qui pensions ramer pour avoir, on était sur la paille, mais c'était terrible. On avait plus un sou, à tel point qu'on envoyait Nina chez ma mère parce qu'on n'avait pas de quoi payer la garderie ou une garde. Enfin, c'était... Et puis, on se disait, bon, ça va, pendant 2 ans, ça va être dur, c'est ce que les banquiers disent. Et puis, le premier jour, on avait déjà 12 réservations au déjeuner. On s'est dit, waouh, c'est quoi ce truc? Et puis, le dîner, 18 réservations. Et là, il y avait cette partie-là, c'était la salle. Et le lendemain, le téléphone n'arrêtait pas de sonner parce que François Simon est venu le premier soir. À cette époque-là, il avait son blog et il a publié Yamcha, le hit du printemps, dans la nuit. Et je me rappelle d'être ici très, très tôt le matin. Il devait être 7h ou 8h du matin. Ça sonnait déjà pour les réservations. Et j'ai fait condamner la salle parce que j'étais pas prête du tout. J'avais pas les produits. Je savais même pas ce que j'allais faire. C'était horrible. Je me souviens avoir de l'omble chevalier, du pad choy, du poulet. Je faisais du poulet vapeur en deux cuissons. Enfin, avec une sauce gingembre. C'était la galère. C'était la galère. J'étais toute seule en cuisine. Et donc, j'ai fait fermer le petit salon. J'ai dit à Chihuahua, tu fais une décoration de thé et tout ça. On fait que la salle parce que je peux pas. Ouais. Les gens attendaient, c'était une catastrophe. Cata.
Mais en même temps, tu dis cata, mais c'était un super beau démarrage en même temps.
Il y avait une très belle énergie. Je pense que j'avais 30 ans. 30 ans, t'as du jus. Enfin, tu vois, 30 ans quand t'as pas encore été grillé par des nuits et des nuits à Rungis, j'étais plein gaz. Vraiment, je dis souvent, j'aurais pu soulever une montagne à cette époque-là. Enfin, j'avais pas besoin de dormir. J'enchaînais, je faisais ringer, je me faisais la journée. Je descendais les trucs à la cave. J'étais puissante. Enfin, j'ai plus du tout cette puissance-là maintenant, plus du tout. Mais c'était une belle ouverture. On a été très vite porté par les guides, par le fooding, à récompenser, par tout. Ouais, et puis le guide Michelin c'est venu après. Mais déjà, il y a eu des premières récompenses en fin d'année qui ont vraiment véhiculé de l'énergie et pour la clientèle et pour nous au sein de l'équipe. Et du coup, c'était une époque formidable.
Ça faisait partie des premières adresses où c'était hyper difficile de réserver.
C'est possible. Ouais. Et on a toujours été un peu catalogués comme ça. Yamcha, c'est impossible d'avoir une table parce que on a des établissements qui sont petits. Et puis, on a des clients réguliers. Il y a aussi l'international. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde.
Une petite adresse.
Pour une petite adresse, exactement.
Mais vous aviez mis en place assez rapidement ce système de réservation un mois à l'avance, les réservations ouvrent.
On voulait pas aller très loin parce qu'on s'est rendu compte que les gens pouvaient nous demander 3 mois après. Ça nous faisait peur parce qu'on s'est dit, et puis si on veut fermer, on fait comment? Ça pouvait pas fonctionner. Et puis, on s'est dit très vite qu'on allait bloquer parce que c'est pas possible. Je ne pourrais pas réserver mon restaurant 6 mois à l'avance. J'ai trop envie d'être libre. Ça m'angoisserait de savoir que je n'ai pas de marge de manœuvre sous 6 mois ou 8 mois. L'horreur.
Finalement, c'est plus égalitaire dans le sens où tu connais les règles du jeu et tu sais si tu veux réserver pour le mois d'après, tu sais comment t'y prendre.
Je pense que oui. Après, beaucoup ont eu du mal à intégrer le truc ou n'ont pas compris. Je pense que si on se donne pas la peine d'écouter les informations, effectivement, on comprend pas. C'est comme tout, partout. Enfin, voilà. C'est. Oui.
Maintenant, les gens sont habitués à ce genre de.
Oui, il y en a toujours qui râlent ou qui veulent pas comprendre ou qui veulent pas se plier. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Enfin, voilà. Je pense que c'est pas impossible de venir manger chez nous. Faut juste s'organiser un peu ou parler ou de. Enfin, voilà. Voilà.
Et dans les récompenses dont tu parlais, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marquée?
Ah, peut-être le fooding en fait, parce que c'était une des premières et suite à ça, il y avait eu la dernière page, le portrait d'Air de Libération. Et là, ça avait commencé à avoir du poids. Enfin, c'était pas le petit article de 3 lignes. Voilà, après le François Simon avait écrit dans le Figaro, enfin c'était sur comment cette parlez-nous dans les quotidiens nationaux, la Bourgogne commençait à être au courant de ce qui se passait à Paris, enfin mes parents fiers, mon grand-père aussi, enfin donc je pense que c'est le fooding qui a embringué, qui m'a fait réaliser qu'en fait ça dépassait notre succès, enfin le succès immédiat du restaurant dépassait ce qu'on avait espéré et que il allait falloir se bouger parce que c'était bien beau d'avoir rêvé d'ouvrir sa chaumière, mais c'était pas une chaumière en fait. Il se passait vraiment quelque chose, il se passait vraiment une attente des clients qu'il allait falloir satisfaire. Et là, j'ai commencé un peu à être pas plus stressée, mais à mesurer que. Qu'il y avait de l'attente, qu'ils attendaient après Yamcha, que les clients attendaient beaucoup de choses. Et ça a mis beaucoup de pression, mais c'est ce qui m'a fait aussi évoluer en cuisine. Ça m'a poussé.
Oui, aller plus loin, enfin plus.
Oui.
T'as développé ton équipe aussi.
Oui.
T'as pu développer.
Oui, oui. Après, j'ai employé parce que j'y arrivais plus toute seule. Et puis, on voulait mettre plus de choses sur les assiettes. Bon, voilà.
Ça a été beaucoup plus rapide que ce que tu l'imaginais.
Je pense que tout est, enfin, oui, sur la fréquentation du restaurant, oui, oui. Mais après, comme les choses se sont mises en place. Je pense qu'on a toujours été assez quand même raisonnable parce qu'on a toujours eu peur de capoter. Enfin, il y avait tout l'argent familial était mis en jeu. Voilà, et moi je disais toujours restons prudents parce que si ça se trouve on va se casser la gueule du jour au lendemain. Et puis il y a eu des périodes difficiles quand on a déménagé rue Saint-Honoré, qu'on a ouvert les Baos, ça marchait pas forcément comme on voulait au début. J'avais encore des salariés, puis je me suis rendu compte que les brioches, ça couvrait pas forcément tous les salariés. C'est pas forcément évident de faire des ouvertures. En fait, on a eu un tel succès sur la première. Ça nous a pas fait peur d'ouvrir un deuxième, un troisième, mais on se rend compte quand même que le succès que la rue Sauval a connu quand on a ouvert en 2009 est vraiment unique, je pense. Enfin, pour nous, il ne s'est pas reproduit à chaque fois qu'on a ouvert les autres affaires.
Bah, ou plus de façon moins fulgurante. Enfin,
moins fulgurante.
Parce que ça reste les Baos, ça continue, marche.
Bah, ça marche très bien. Maintenant, ça marche très très bien. Mais c'était pas forcément évident au début. Et puis après, alors, quand on est un peu connu, donc quand on n'est pas connu. Alors tout le monde est indulgent et puis voilà. Mais quand vous commencez à être connu, vous ouvrez un truc, mais au moindre petit faux pas, vous vous faites allumer. Mais au moindre truc, et forcément vous êtes trop cher, et forcément c'est infernal. Et ça c'est chiant, c'est paralysant. Enfin c'est
dur d'être jugé comme ça.
Dur, c'est pénible en fait. C'est pénible, c'est lourd. C'est lourd parce que parfois c'est trop facile et on se dit qui sont ces gens pour
En plus c'est quand même un des métiers où tu te remets enfin tu te remets pas en jeu à chaque assiette mais les gens peuvent te juger à chaque bouchée quasiment.
Je raisonne pas comme ça parce que c'est si tu penses ça, tu t'avances plus et t'es tétanisé par tout ce que tu fais. Mais effectivement, il y a un discernement à avoir tous les jours, que tu sois éclaté ou en pleine forme. Il faut regarder ce que tu fais et essayer de se dire bon, si c'est moi qui avais l'assiette, est-ce que je serais contente? Donc et ça, faut pas oublier de le regarder, de se mettre derrière et de se dire qu'est-ce qu'on fait. Après, prendre le parti de dire si, oui, ça me plaît, et que ça ne plaise pas, c'est encore autre chose. Mais c'est regarder d'arriver, en fait, à ce que ça soit réalisé comme tu le souhaites. Et c'est ça qui est dur. À mettre en œuvre tout le process avec plus d'employés, avec des gens qui ne vont pas forcément comprendre ce que tu veux. Bon, maintenant, j'ai un super second, j'ai le sauveur. Ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Ça fait 3 ans qu'il est dans la maison, mais il est passé second l'année dernière. Et il y a quelqu'un dans la cuisine qui est capable de regarder à ma place, chose qu'il n'y avait pas avant.
Vous êtes combien aujourd'hui en
cuisine ? On est 5.
5 ?
5, ouais.
Ah, c'est pas énorme.
Non, on reste petit. La cuisine n'est pas énorme et puis on n'a pas de carte. On a un menu unique, donc c'est pas la peine d'être trop. Bon, on est tout le temps dans le jus, mais je le veux aussi. J'ai pas envie d'être surstaffé. Alors, j'ai des demandes de stage, de tire-larigot avec Chef Stable et tout. Forcément, j'ai une pile de CV comme ça, d'étrangers qui veulent venir 2 mois, 3 mois. J'ai pas le temps de gérer. Malheureusement, enfin, je prends pas parce que c'est... Ça me dérange. J'ai l'impression d'être observée, ça me dérange dans mon travail. Et puis, je suis pas prête à tout partager comme ça, vite fait...
C'est plutôt
la cuisine de Yamcha, c'est pas du show. Enfin, je veux dire, c'est il y a des.
C'est du long terme, tu veux dire.
Oui.
C'est un.
Oui. Parce que c'est un truc de. C'est une espèce
de relation.
De boule
vraie relation.
Oui.
C'est
exactement.
Pas juste on vient chercher un petit morceau et on s'en va.
Ben non, parce qu'il y a pas de recette, il y a pas de truc, donc c'est pas. Ça change tout le temps, c'est jamais.
Tu continues à cuisiner beaucoup à l'instinctivité.
Mais c'est que ça.
C'est
encore
ça, ouais.
Plus maintenant qu'avant. Encore plus maintenant qu'avant. Justement, je suis de plus en plus à l'aise avec ça parce que les années de travail font que tu maîtrises plus, tu vas moins à tâtons, t'as un truc dans la tête et y a toujours jamais de test, machin, ça sort en direct pour les clients.
Et comment tu fais avec ton second? Enfin, vous arrivez de fait à vous comprendre.
On se comprend en parlant facilement. Sur papier, ouais. Et en faisant les menus. On sait. Après, parfois, il imagine autrement. Voilà. Et puis, son imagination n'est pas mauvaise. Donc, je laisse aussi. Je le laisse réaliser certaines choses.
Tu parlais de Chef Stable. T'es la seule femme française à être passée dedans. Ça a été important, cette visibilité mondiale ?
Énorme. C'est monstrueux. Chef Stable, c'est monstrueux. Parce qu'il touche quand même toute la planète. Toute la planète. C'est des reportages qui sont extrêmement bien faits. Ils cherchent vraiment, ils curent vraiment pour extraire, je pense, ce qui ressort le plus du restaurant, de l'histoire du chef, du... Nous, ils ont choisi l'angle du couple, l'angle familial. Et puis, je pense, c'est vrai. Enfin, c'est ça, c'est ce qui nous représente. Et ils ont fait un reportage assez touchant sur Yamcha, qui a touché pas mal de monde. Et du coup, beaucoup ont eu envie de venir découvrir Yamcha grâce à Chef Stable. Et puis moi, ça m'a aidé pas mal à avancer parce que... il y a eu un enchaînement de choses. Chef Stable est sorti. Donc, Chef Stable, c'est le tournage, c'est quand même 15 jours.
D'accord.
Il y a des très, très longs interviews. Il y a à peu près une douzaine d'heures d'interviews pour ressortir
énorme.
Les 45 ouais. minutes. Et donc, il y a du courage. Et j'ai fini des interviews en pleurs à dire « je veux plus parler, j'en ai marre. Enfin, j'ai pas à vous dire ça. » Et non, il fallait dire. Il fallait dire et le réalisateur, quand on a fait Hong Kong, on a tourné à Hong Kong, il m'a fait venir dans sa chambre. Il m'a dit, maintenant, tu vas t'asseoir là. On se connaît bien. On avait passé les 10 jours en France. On avait passé les 4 jours à Hong Kong. Tu vas t'asseoir là et tu vas répondre à mes questions. Et il m'a posé quelques questions assez intimes sur mon rapport à la cuisine, sur mon rapport à Chihua, sur mon rapport à mes enfants. Et il m'a dit, tu vas répondre. Je n'en parlerai pas dans le reportage, mais j'ai besoin de comprendre pour affiner mon travail. Donc, ça a été un gros courage. J'ai eu l'impression de passer sur un divan de psy. Quoi. Enfin, c'est moi qui déteste ça. Enfin, mais ça m'a fait avancer et dans le sens où, quand c'est sorti, j'ai été touchée par le reportage, mais je n'ai pas aimé l'image de moi. Déjà, la clope attire l'arigot. J'ai arrêté de fumer suite à ça. Je me suis dégoûtée. J'ai arrêté de fumer. J'étais en pleine forme. Donc, j'ai décidé d'avoir mon troisième enfant. Enfin, ça a enchaîné une nouvelle énergie, un nouveau truc, une next step. Parce qu'il fallait changer cette image. Je ne me plaisais pas du tout dans le reportage. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que ça m'a insufflé un nouvel élan. Enfin, un nouveau truc. Voilà. Faut que je me bouge. Voilà.
Et donc, qu'est-ce que représente la cuisine pour toi?
Je pense que la cuisine, c'est une grosse partie de ma vie. Ça m'occupe beaucoup, ça m'anime beaucoup, ça me préoccupe beaucoup parce que je cuisine à l'instinct comme ça. Il y a forcément un peu des réflexions, enfin puis des envies. En fait, ce que m'apporte la cuisine, c'est la cuisine m'aide à réaliser mes envies parce qu'en fait, quand je me lève le matin, ça, j'ai envie de manger. Si je suis vraiment guidée par mes envies de manger et je les fais au restaurant, donc. Ça réalise mes envies, mon fantasme. C'est un accomplissement, je pense, la cuisine pour moi. Voilà.
Tu fais une cuisine du cœur ou de la tête ?
Du cœur. Bah, claro, je suis pas assez. Je suis pas quelqu'un de très cérébral et je suis plutôt. J'aime bien gâter par la cuisine, comme j'aime bien faire le staff food pour mon personnel. Enfin, généralement, c'est moi qui le fais.
C'est une façon de. De partager.
Je pense que c'est une façon de sortir ce que j'ai en moi. Après, qui veut le prendre ou le manger ou le lire, enfin, tu vois, le comprendre, mais on a tous besoin, c'est une expression.
Et tu crées facilement?
Oui, tout dépend comment on place la création en fait, je crée pas des choses techniques, des nouvelles techniques ou je suis pas une révolutionnaire ou j'ai pas sur ce côté-là, mais
sur les accords, ça devient
c'est
assez
des choses, instant... c'est une création très éphémère en fait, c'est instinctif, comme c'est j'ai des élans en fait, oui, des élans d'expression, je pense, je m'exprime plus que je ne crée.
Voilà. Mais comme tu parlais de cuisine instinctive aussi, ça te vient assez facilement. T'es pas devant ton wok et te dire, mais
ah ben
qu'est-ce
non.
que je vais
mais...
mettre dedans aujourd'hui?
Ah ben non, mais jamais. Les solutions, tout arrive très vite et très naturellement, en fait. Et je reviens sur cette histoire d'envie du matin, d'envie de la semaine, du climat, du, oui. C'est pourquoi pas. Parfois, les menus sont vraiment différents. Enfin, la thématique est, ça va être sur des saveurs sourdes. Je le vois après, hein, je le fais pas en le concevant, mais je me dis, mais c'était un peu sombre. C'est,
il faisait pas beau ce jour-là.
Voilà, je regarde le menu, je regarde le jour. C'était qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Puis le 2 jours après, c'est complètement différent. Donc, je pense que c'est assez lunaire.
Voilà. Est-ce qu'il y a un plat dont tu es particulièrement fière?
En ce moment, oui. Il y a un plat qui n'est pas réalisé que grâce à moi, mais c'est un peu toute l'accumulation de l'histoire de Yamcha, parce que c'est le homard poêlé. Il est plus sauté au wok, il est poêlé. Parce qu'on a un stagiaire de Ferrandi, un stagiaire marocain qui cuisine super bien à la poêle, un peu au beurre et tout. Ce qu'il fait, c'est délicieux. Et je me dis, c'est bon, je vais pas lui faire woker. Il va me bousiller le truc, il sait pas faire. Il sait super bien poêler à l'ail, un peu au piment, enfin. Et donc, lui, il fait le homard. Léonard, le second, il fait la poitrine croustillante. Il est parti en stage à Hong Kong début avril et il a clairement réussi à intégrer un des mystères de la rôtisserie chinoise. Donc, il arrive à le faire chez nous. Et moi, je fais ma sauce XO que je sers depuis toujours. Les épinards sautés à l'ail que Chihua m'a fait découvrir il y a des années, mais que j'ai toujours adoré. Avec une sauce moutarde sucrée à la crème crue. Enfin bon, en ce moment, je suis fière de ce plat parce que c'est vraiment une collaboration de beaucoup de choses. Et je dirais presque que c'est un peu le plat de la maturité. Enfin, bon, j'espère qu'on va mûrir encore un peu, mais ça commence.
Tu sens que ça,
si je regarde comment c'est arrivé sur l'assiette, l'histoire, il commence à y avoir du chemin. Vraiment, pour voilà.
J'ai une petite tradition dans ce podcast, c'est que je fais une interview dans l'interview.
C'est des D'accord. questions, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, c'est des questions très, très basiques et faut répondre du tac au tac.
Ok.
Ton âge?
41.
Ton signe astrologique?
Verseau.
Ton plat signature?
Homard saucisseau.
Ton plat préféré à manger?
À manger? J'aime tout. Une bonne pizza.
Le chef que tu admires le plus?
Pascal Barbeau, parce que c'est celui que je connais le plus.
Ton ingrédient préféré?
L'ail.
Ton ingrédient détesté?
L'ail noir, confit, le truc confit là. Je déteste ça, j'adore l'ail, mais je déteste l'ail noir. Je peux pas supporter.
Ton ustensile fétiche?
Le wok.
Ton dernier meilleur repas?
Si, c'est à Los Angeles. Chez Scroll, c'est un peu un breakfast, Californian breakfast. C'était délicieux.
Quel est le resto que tu aurais aimé ouvrir?
Un restaurant au bord de la mer.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
Je pense qu'on reconnaisse que la générosité, qu'on me dise que je sois généreuse.
Et la pire critique?
Justement, le contraire, qu'on me dise que je sois radine, que je mets rien dans mes assiettes, qu'il n'y a pas de cohérence.
Bon, ça doit pas arriver souvent quand même.
Non, c'est déjà arrivé, donc voilà, mais c'est déjà arrivé.
Quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois?
Quand j'ai déménagé rue Saint-Honoré. Parce que j'ai dû avoir plus de monde, et avant je me sentais cuisinière. Je me suis sentie chef en 2015, voilà.
Quand tu as développé ton équipe?
Oui.
Et comment Enfin, comment tu te présentes si on te pose la question? Tu dis chef, tu dis cuisinière, tu dis restauratrice?
Chef, parce que bah, toute la journée, on m'emmerde avec des questions chef, et je suis obligée d'y répondre, donc j'imagine que je suis chef. Non, mais il faut assumer le truc. Il y a un moment, je préférerais être cuisinière, mais faut l'assumer. Enfin, je porte les décisions, j'ai le point final sur le truc, donc voilà, je suis chef.
Et quel genre de chef es-tu?
Je pense que, en fait, au restaurant, les gens m'appellent chef ou maman, même si c'est pas mes enfants. Donc, je pense que je suis une chef qui marche à l'affectif. Je pense que si je suis pas là, le bateau coule. Donc, mon rôle est très important parce que j'ai tout dans la tête et donc voilà, j'ai ma brigade qui est généreuse et prête à suivre, donc il faut driver, et j'espère être une chef responsable et juste, parce que c'est peut-être ça qui est plus dur, c'est d'être juste avec les gens, de pas être pollué par le stress, par ce que disent les gens, et pas répercuter ça sur une équipe, parce que c'est facile hein d'être énervé et puis de gueuler après tout le monde. Enfin, ben on peut passer ses nerfs comme ça, mais c'est pas bon. Et moi ça m'arrive des fois d'être injuste parce que je suis crevée ou parce y a rien qui va, et puis d'un seul coup il y en a un qui dérouille. C'est ce qui, l'autorité du chef peut engendrer des débordements d'injustice, justement.
C'est dur, hein, de gérer le stress. Enfin, les chefs le disent souvent que le stress, même si tu veux essayer de faire hyper attention à tout ça, que le stress que ça engendre fait que, comme tu dis, ça.
Il y a des débordements. Tu débordes. Tu sais pas pourquoi, des fois, y a un truc qui, la goutte d'eau qui déborde et puis.
Comme avec les enfants, hein.
Un peu, après, avec les enfants, je pense que les enfants je dirais que c'est plus facile d'être juste. C'est plus facile d'être juste avec les enfants parce qu'on sait qu'un enfant, si on est injuste, il t'en tiendra rigueur pendant longtemps et que t'as moins le droit à l'erreur. Quelqu'un de la brigade, tu pètes un petit coup, un plomb. Enfin, si tu l'avoues, si tu dis, tu vois, excuse-moi, il faut savoir aussi s'excuser, il faut savoir, ça passe, c'est pas comme un enfant. Voilà, la justice, je pense qu'il faut pas trop se louper. Ouais.
Et c'est dur d'être une femme chef en cuisine, enfin, d'être une femme en cuisine, ça t'en as souffert, t'as dû te t'imposer deux fois plus ou...
Non, j'en ai pas souffert parce que j'ai travaillé dans des maisons qui respectaient les femmes. Après, je cache pas qu'il faille certainement pas mettre des bouchées doubles, mais il y a une petite chose à comprendre. Je pense qu'il faut être, en tant que femme, dans ce milieu, tu t'en sors pas si t'es sur la défensive et que tu veux prôner ton côté femme égalitaire. Tu dois fournir un petit peu plus qu'un mec. Mais c'est dans la vie, c'est comme ça aussi. Dans un couple, c'est comme ça aussi. Dans la maison.
Devant les banquiers, c'est comme ça aussi.
Voilà. Donc, je pense que lisser les choses, harmoniser les choses, ça demande une énergie particulière à la femme et il faut l'assumer, il faut le faire.
Et tu sens qu'on attend de toi un rôle de mentor, de modèle,
non.
Du fait que t'es chef étoilé et qu'il y a peu de femmes à ce niveau-là?
Non, je crois pas. J'ai jamais trop ressenti ça.
T'as pas des sollicitations extérieures sur ce côté femme modèle
si,
en cuisine?
Si, mais je l'écarte un peu parce que on fait que de la cuisine. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai pas. On sauve pas des gens, on règle pas les gros problèmes politiques, sociétales. Enfin, c'est que de la cuisine, donc je ne pense pas peut-être être un exemple pour une cuisinière, une jeune cuisinière. Oui, dans le parcours. Et puis je parle volontiers de mon expérience, mais j'ai pas envie de mettre trop ce côté-là en avant. On m'a déjà sollicité pour des conférences, des choses. j'ai pas grand chose à dire, en fait, à part faites votre truc, cassez les pieds à personne, faites votre truc, c'est que de la cuisine, soignez vos clients, soignez votre famille, soignez vos enfants, voilà.
Et comment tu fais pour gérer la vie de famille et la vie professionnelle?
Je saute partout, je cours toute la journée pour essayer, en fait, le nerf de la guerre, c'est de donner un petit peu à tout le monde. Donc, il y a une famille, il y a des employés, il y a les clients, et la cuisine, il y a la créativité. Et c'est d'arriver, de tout ce que je touche, de donner un petit peu à tout.
D'avoir un équilibre.
D'avoir un équilibre, mais par les enfants. Ce matin, j'ai pris un petit peu de temps avec Léon, je l'ai changé, tout ça, je le fais pas tous les jours. Hein. C'est souvent Chihuahua qui assume, parce que j'avais envie de le voir. Voilà, je suis soulagée, je me suis occupée de Léon 30 minutes, ça m'a fait plaisir, je l'ai vu, il y a eu un rapport, voilà. Sam, je l'ai pas vu, donc je vais essayer de me le choper à la sortie d'école. Et Nina, je sais clairement que je me la choperai avant le service du soir, parce qu'on a un petit truc à voir ensemble, à discuter. Donc, voilà. Sur les enfants, il faut réussir à chaque jour de donner un petit peu.
En tout cas, c'est possible d'avoir 3 restaurants et 3 enfants.
C'est possible si t'es bien entouré. C'est possible parce que mes parents sont là, parce qu'on a la super nanny qui travaille pour nous depuis 7 ans, qui est sécurité, parce que Chihua est très investi dans la famille, s'occupe beaucoup des enfants, parce que l'équipe aussi est là. Clairement, les jeunes de l'équipe s'occupent aussi de mes enfants. Quand il faut faire le relais ou quand tu es en cuisine, il faut que je sois là parce que il y a ça à faire et puis personne d'autre peut le faire. Ben, il y en a un qui tient le Léon à côté ou voilà. Marine aussi, sommelière, qui est très présente, qui est depuis 7 ans dans la maison. Enfin, bon, si j'ai un pet de garde, un dimanche, elle va assumer. Quand on est parti voir Nina au championnat de France, on a une gymnaste, la grande des gymnastes. C'est l'équipe qui a gardé les 2 garçons, enfin, pour qu'on puisse y aller.
C'est une grande famille.
On est très, très soutenus. On vit ensemble, hein, chez Yamcha. On a un peu de mal à se quitter le week-end.
Ouais, tu disais famille tout à l'heure, c'est ça, c'est restaurant familial, finalement.
C'est très familial et pourvu que ça dure.
C'est quoi la recette du succès d'un établissement, des établissements Yamcha?
Je dirais qu'il faut être dedans, il faut être tout le temps là. Il faut regarder en permanence et se remettre en question en permanence. En continuant, la difficulté, en fait, c'est de trouver l'équilibre entre prendre du recul, mais avancer.
Est-ce qu'il y a besoin de grossir tout le temps pour avancer, d'avoir d'ouvrir un nouveau restaurant
Je crois pas, en fait. Je crois pas. Je pense. Parfois, je me dis, j'aurais gardé juste un restaurant gastronomique. Alors, est-ce que je me ferais chier ou est-ce que comment ça serait? Je peux pas le savoir. Et parce que parfois, je me dis, j'ai peut-être vu un peu trop grand. Ça fait pas mal à gérer quand j'ai des soucis de personnel au café. On l'aurait pas, on serait quand même plus peinard. Mais en même temps, on n'aurait pas ce lieu, on n'aurait pas cette maison. Je regrette rien. En tout cas, je ne regrette absolument rien. Mais faut pas grandir de trop quand même.
Et c'est très important de rester, depuis le début, vous restez quand même... tout à l'heure, tu parlais d'un développement mesuré, vous n'êtes pas là à prendre des risques non plus de fou.
Non.
Vous restez les investisseurs...
Déjà, nous n'avons pas d'investisseurs, voilà, exactement. On va pas chercher de l'argent à l'extérieur qui est trop dur à rembourser et on ne veut surtout pas avoir le couteau sur la gorge de la rentabilité, parce que s'il y a bien une chose pour laquelle on travaille pas, c'est le profit et l'argent. Nous, du moment que tout s'auto-suffit et qu'on vit bien, ça nous va très bien. Effectivement, ça reste une taille à l'échelle familiale, voilà, de quelque chose, d'une entreprise familiale.
C'est quoi la prochaine étape?
Pour l'instant, il y a rien. Il y a pas de plan sur la comète parce que il y a eu pas mal ces dernières années. Léon est petit, il a 1 an et demi, il est dur. On a le troisième est super dur et du coup ça freine un peu sur les projets, les trucs. C'est pas pareil quand t'en mets un dans une sacoche et tu l'emmènes n'importe où. Léon est dur, donc on se remet un peu de tout ça. l'ouverture du café. On aimerait bien que le café marche plus, voilà, qu'il y ait plus de fréquentation, notamment le soir. Parce que, bon, c'est tout nouveau, donc ça va, mais faudrait que ça bouge un petit peu plus parce qu'il y a une équipe en béton et voilà, ça serait bien. Donc il y a juste à confirmer des choses en ce moment. Il y a pas de nouvelle étape en vue.
Et les étoiles?
Si un jour le guide Michelin voulait nous en mettre un deuxième, ça serait là, ça serait l'apothéose. Mais bon, j'ai un peu. Je sais pas ce qu'il faut faire pour avoir une deuxième. Je n'ai surtout pas envie de me le faire dire. Ouais. Voilà, de prendre un coach, de prendre un truc, de faire tout ce qu'il faut pour être bien placé auprès de tout le monde. Je ne sais pas faire et ça m'intéresse pas. Donc je le ferai jamais. Si le guide Michelin pense que ma cuisine vaut 2 étoiles un jour, ben pourquoi pas, je serais très contente. Bien sûr. Ça serait un peu voilà, je pense que le restaurant a vraiment est bien plus mûr que quand il a eu sa première, il y a 10 ans qui se sont passés. On a progressé, on a investi, on a évolué, c'est pas une maison qui n'avance pas, au contraire. Donc ça serait bien que ça soit vu. Voilà.
Bon, l'interview touche à sa fin et j'ai pour habitude de demander une recette, mais une recette de la famille. Qu'est-ce que tu fais à tes enfants?
Une recette de la famille. Alors, on fait le tofu vapeur. Donc, c'est le parpaing de tofu nature, silky, dans les bio, ou quand on va à Belleville, il y a un magasin qui vend du tofu frais. Non, c'est pas Paris Store, je sais pas comment il s'appelle.
Pas tout tofu, mais je vois, c'est à côté...
Du Pacifique, qui fait l'ang tofu. Bon, un tofu frais, ouais. Un pavé de tofu frais, il faut le rincer sous l'eau, le saler un petit peu, le mettre dans une assiette qui va dans un wok où on va installer la vapeur, on va mettre un fond d'eau, on va mettre 2 cuillères, poser son assiette avec le tofu, et puis on va mettre plein gaz, l'eau bouillir, couvrir, ça fait donc de la vapeur, ça cuit, on laisse 10 minutes, et entre-temps, on aura coupé de la ciboulette, du gingembre. On aura fait chauffer de l'huile de tournesol et on va sortir le tofu au bout des 10 minutes. On va mettre plein de ciboulettes, plein de gingembre et on va arroser d'huile chaude pour que ça fasse que ça frétille un bon coup et que ça éclate les saveurs. Et après, on va arroser de sauce soja. Et ça avec du riz. Généralement, les enfants adorent ça.
Ça donne envie d'essayer en tout cas. Merci Adeline.
De rien, merci.
Vous venez d'écouter Adeline Grattard dans la saison 3 d'À Poil. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, 3 adresses dans le quartier des Halles à Paris. Yamcha, son gastronomique, boutique Yamcha et le petit dernier, Laïcha. Pour en savoir plus, rendez-vous sur yamcha.com. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Pour ceux qui découvrent le podcast, bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli ou sur Instagram pour ne manquer aucun épisode. Cet épisode a été réalisé par Studio Ochenta, musique par Santiago Walsh. Merci à Garance Munoz qui a aidé à préparer cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À Poil.